Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Avec une question pour commencer, est-il possible de parler scientifiquement du serpolet ?
Bien sûr, il suffit pour cela d'ouvrir un traité de botanique et de lire « Serpolet, Thymus serpilum sous arbrisseau nain » ou plante plus ou moins ligneuse à la base, feuilles opposées simples entières et inflorescence en verticille. Alors cette description est certainement instructive, mais avouez, elle est rasoir.
Mais j'allais vous le dire, est-ce qu'on peut parler du serpolet de manière un peu plus simple ?
Oui, en disant qu'il est apprécié pour ses propriétés aromatiques, que l'on en trouve partout en France, dans les jardins bien sûr, mais aussi le long des chemins, et qu'il se distingue aisément par son odeur si caractéristique. Le serpolet, eh oui, est une plante aimée des poètes, et elle est citée dans beaucoup de chansons, et c'est heureux Eric et Patricia, car j'ai l'intention maintenant de tester vos connaissances musicales. Juste une petite question toute bête, l'eau vive de Guy Béard.
Ça parle du serpolet.
Est-ce qu'on en parle du serpolet dans l'eau vive de Guy Béard ?
Je dirais oui, sans conviction.
Eh bien, vérifions, lorsque chantent les pipeaux, lorsque dans l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives, venez, venez mes chevreaux, mes aiguelets, dans le laurier le thym et le serpolet. Et oui, il en parle. Tout comme également Jean Ferrat dans un petit loupio. Vous savez, c'est une chanson, une berceuse qu'il a écrit en 1976 et il dénonce à l'époque la société de consommation. Et j'aime beaucoup ce petit couplet. T'auras plus tard ta limousine pour engraisser monsieur Peugeot, alors t'achèteras de la benzine pour engraisser monsieur Esso. T'auras ton coin de serpolet, on t'y permettra des culbutes avec ta tante et ton duvet pour engraisser monsieur Lahutte. J'adorais Jean Ferrat et vraiment je regrette beaucoup sa disparition.
Gilbert Bécaud aussi.
Ah ben question, tiens, Patricia, question un peu piège et facile, j'en conviens.
Ça va durer longtemps ce petit jeu.
Oui, vous allez voir. Est-ce qu'il en parle dans les marchés de Provence ? Du serpolet.
Du thym de la garrigue.
Voulez-vous
Allez, Béco parle bien du thym, de la garrigue. Allez, d'un peu de safran et d'un kilo de figues. Oui, il propose aussi un beau plateau de pêche ou bien d'abricots, de l'estragon et de la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Eh bien non, il n'en parle pas, contrairement à ce que souvent on s'imagine.
Alors pourquoi vous en parlez ?
Et parce que j'avais envie, moi, de parler du serpolet qui est originaire justement de la région de Provence. C'est là où l'on en trouve le plus.
Jean de La Fontaine, lui, n'a pas oublié de parler du serpolet dans sa fable « Le jardinier et son seigneur ».
Le jardinier et son seigneur, c'est ma fable préférée, vous vous en doutez. Un amateur de jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait en certains villages un jardin assez propre et le clos attenant. Il avait de plans vifs, fermé cette étendue. Là, croissait à plaisir l'oseille et la laitue, de quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet, peu de jasmin d'Espagne et force serpolet. Eh bien oui, j'avais envie ce matin de parler du serpolet, parce qu'il est vrai que si les légumes, les fleurs, les produits alimentent nos maisons et notre table, ils permettent aussi parfois aux écrivains d'écrire des petits chefs-d'œuvre.
Allez, à présent, vos conseils aux auditrices et aux auditeurs de France Inter, avec Pomme pour commencer. Pomme a rempoté, oui, c'est peut-être la chanteuse d'ailleurs.
Ne dites pas. C'est vrai, moi j'en sais que c'est elle.
En tout cas, Pomme nous écrit, je ne sais pas si c'est la chanteuse, mais elle nous écrit.
Il vaut mieux s'appeler Pomme que Poire.
Vous sortez, c'est fini. Vous rendez votre badge. Pomme a rempoté en mars un camélia dans de la terre de bruyère, un peu de tourbe aussi, et de la terre classique. Il se porte très mal, ce camélia. Ses feuilles se décolorent, ses boutons de fleurs tombent. Puis-je encore faire quelque chose pour empêcher ce camélia de mourir ? Mourir, demande Pomme.
Il ne va peut-être pas mourir, mais il y a une règle que l'on dit sans cesse, on ne rempote jamais un végétal en bouton qui va fleurir. La plante ne peut pas parallèlement développer ses racines et en même temps assumer sa floraison puis sa fructification. Quand un végétal est en bouton, on le regarde, on l'arrose, on lui parle, éventuellement on lui donne quelques petits soins d'entretien, mais on ne le rempote pas. C'est valable pour toutes les plantes et bien sûr pour le camélia.
Elisabeth a un laurier rose en pot et il y a environ 2 ans, son mari l'a taillé. Il est devenu magnifique, pas le mari, hein, le laurier rose. Mais depuis, il ne fleurit plus du tout. Pouvez-vous, Alain Baraton, me dire ce que je peux faire ?
Eh bien, se rappeler que quand on a des lauriers roses et qu'ils vivent en pot, ce qui est le cas, même si ce n'est pas présenté, on ne les taillera qu'en février ou en mars et certainement pas à l'automne. Alors une taille sévère, oui, mais pas trop. Là, apparemment, le mari a eu la main un petit peu lourde. Il faut maintenant attendre que le laurier rose se refasse une santé.
Catherine, mon kumquat, après plusieurs années, me donne sur une de ses deux branches de petits citrons jaunes. A-t-il été greffé deux fois ou bien est-ce qu'un oiseau l'a pollinisé?
Eh non, c'est joli, l'idée de l'oiseau pollinisé. Qui vient, hein, qui pollinise, et puis d'un seul coup, il y a des
ça
mandarines. Non, c'est beaucoup plus complexe. Il s'avère que le kumquat a certainement été greffé, c'est ce qu'on appelle hein, comme type de greffe, la greffe en écusson. Il y a sur un citronnier, et que cette greffe n'a pas totalement prise. La moralité, la plante est en train de retrouver le type d'origine et qu'elle est en train de reproduire des citrons à la place des kumquats. Mais c'est pas mal des citrons non plus.
C'est très bien, mais enfin, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait des kumquats. Josiane, un immeuble devrait se construire sur le terrain qui jouxte mon grand jardin. Alors, Alain Baraton, quels arbres brise-vue, persistants, de haute taille, me conseillez-vous de planter pour protéger un peu l'intimité de ma famille?
Si notre ami avait habité l'Australie, j'aurais conseillé certaines variétés d'eucalyptus qui peuvent prendre 2 mètres par an. Vous imaginez, 2 mètres par an, au bout de 10 ans, 20 mètres, vous n'avez plus aucun problème de construction. Là, c'est beaucoup plus complexe. Nous sommes en France et le climat ne permet pas des croissances aussi rapides. Alors pourquoi pas de grands séquoias? Le séquoia, ça pousse vite. Alors on parle souvent des murs végétaux avec le tuya, faire un mur végétal avec un séquoia, enfin des séquoias, ça a quand même beaucoup d'allure. Les peupliers, c'est caduc, j'en conviens, mais déjà un alignement de peupliers pour masquer des constructions disgracieuses, pourquoi pas. Mais j'aime aussi le polovnia qui fleurit mauve au printemps, qui pousse vite. Alors, ce qu'il faut, c'est simplement créer une association, un bosquet, mais logiquement, on doit pouvoir atténuer la présence d'une construction nouvelle grâce à ce genre de végétaux. Le mélèze également, qui est un conifère, mais attention, lui, il perd ses aiguilles en hiver, lui aussi est considéré comme de rare croissance rapide, tout comme le tilleul.
Merci Alain Baraton. Un dernier conseil pour la route, j'allais dire.
Oh, bah, c'est pour les enfants, les aventures d'Alice Brin d'Herbe. J'adore ce dessin, c'est toujours bien fait. Là, c'est Alice et le péché original, bien entendu. C'est dessiné par François Kenneret, qui est illustrateur, mais il est un homme orchestre à tous les sens du terme. Il est aussi musicien. C'est publié chez Plume de Carotte.
Alain Baraton, merci et au week-end prochain, à samedi prochain.